Je m'appelle Gossene, je suis née à Canala, mais les hasards de la vie m'ont fait découvrir les hautes vallées de la Yenguéné, et c'est là que sont les miens, aujourd'hui. Il y a très longtemps, j'ai été désignée par le chef du village, avec une vingtaine de garçons et moitié moins de filles, pour aller à Nouméa. Nous ne savions pas pourquoi. Les soldats nous ont escortés jusqu'à la FOA. 2 jours de marche par la route charretière. Là, des camions nous attendaient. Nous sommes descendus à Nouméa, où nous avons rejoint d'autres Kanaks venus des îles d'Oueva, de Lifou, de Marée. Nous étions plus d'une centaine. On dormait dans un immense hangar à fruits, sur le port, quand le grand chef Boula nous a réveillés pour nous présenter un Français, l'adjoint du gouverneur Joseph Guyon. Il a commencé par nous appeler mes amis, et tout le monde s'est méfié. Il a rendu hommage à nos pères, à nos oncles qui étaient allés sauver la mère patrie d'adoption pendant la Grande Guerre, avant de nous annoncer que nous partirions dès le lendemain pour l'Europe. Ce voyage est la chance de votre vie. Grâce à la Fédération française des anciens coloniaux qui a intercédé auprès de Monsieur le Gouverneur, la Nouvelle-Calédonie tiendra toute sa place au cœur de la prochaine exposition coloniale. Auprès de vos frères en voie de civilisation, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, vous représenterez la culture ancestrale de l'Océanie. Vous montrerez par vos chants, vos danses, que coloniser, ce n'est pas seulement défricher la jungle, construire des quais, des usines, tracer des routes, c'est aussi gagner à la douceur humaine les cœurs farouches de la savane, de la forêt ou du désert. Nous avons embarqué le 15 janvier 1931 sur le ville de Verdun. Nous vivions sur le troisième pont, comme des passagers de dernière catégorie. Il faisait trop chaud le jour, trop froid la nuit, et plusieurs d'entre nous ont contracté la malaria lors d'une escale aux Nouvelles-Hébrides. Il y a eu 3 morts, si mes souvenirs sont exacts. L'équipage a jeté leur corps à la mer sans nous laisser le temps de leur expliquer que l'on naît pour vivre avec les vivants et que l'on meurt pour vivre avec les morts. Les morts ne peuvent vivre dans l'océan, ils ne peuvent pas y retrouver leur tribu. Nous sommes arrivés à Marseille au début du mois d'avril, sous la pluie. Des autocars militaires attendaient sur le quai de la Joliette pour nous conduire directement à la gare Saint-Charles. Lorsque nous sommes arrivés à Paris, il ne subsistait rien des engagements qu'avait pris l'adjoint du gouverneur à Nouméa. Nous n'avons pas eu droit au repos ni visité la ville. Un officiel nous a expliqué que la direction de l'exposition était responsable de nous et qu'elle voulait nous éviter tout contact avec les mauvais éléments des grandes métropoles. Nous avons longé la Seine en camion et on nous a parqués derrière des grilles, dans un village kanak reconstitué au milieu du zoo, entre la fosse aux lions et le marigot des crocodiles. Leurs cris, leurs bruits nous terrifiaient. Au cours des jours qui ont suivi, des hommes sont venus nous dresser, comme si nous étions des animaux sauvages. Il fallait faire du feu dans des huttes mal conçues, dont le toit laissait passer l'eau qui ne cessait de tomber. Nous devions creuser d'énormes troncs d'arbres, plus durs que la pierre, pour construire des pirogues, tandis que les femmes étaient obligées de danser le pilou-pilou à heure fixe. Au début, ils voulaient même qu'elles quittent la robe mission et exhibent leur poitrine. Le reste du temps, malgré le froid, il fallait aller se baigner et nager dans une retenue d'eau en poussant des cris de bête. J'étais l'un des seuls à savoir déchiffrer quelques mots que le pasteur m'avait appris. Mais je ne comprenais pas la signification du deuxième mot écrit sur la pancarte fichée au milieu de la pelouse devant notre enclos. Homme anthropophage de Nouvelle-Calédonie. Didier Denex. Donc, je remercie Saïd Bouamama d'être ici ce soir parmi nous. La conférence qui va animer a pour intitulé « L'étranger déshumanisé. Idéologie mise en œuvre dans les différentes lois sur l'immigration ». Notre but, c'est de mener ensemble une réflexion sur ce fil qui, de la violence génocidaire des conquistadors, de l'esclavage et de la traite négrière, de la conquête des terres indiennes par les Européens, de la colonisation de l'Asie, du Moyen-Orient, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, nous conduit tout droit aux lois sur l'immigration, que ce soit les lois Pasqua, Debré, Chevènement, De Villepin, Sarkozy 1, Sarkozy 2 et enfin Hortefeux. Nous souhaitons dénoncer cette idéologie qui, à travers les siècles, reste la même, et qui fait les ravages. L'infériorisation, la déshumanisation de l'autre, l'étranger. Saïd Bouamama, sociologue de l'Institut de formation Action Recherche de Lille, militant du mouvement autonome, ça c'est l'apologie, hein, militant du mouvement autonome de l'immigration du Nord-Pas-de-Calais, un des initiateurs de l'appel des indigènes de la République, et tout récemment porte-parole des sans-papiers en grève de la faim à Lille, grève de la faim qui a duré 70 jours. Ben, Saïd nous a paru le conférencier idéal pour mener la discussion sur ce sujet. Encore une fois, merci à lui de nous avoir rejoints. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir répondu cette fois à notre invitation. Je vous épargnerai un trop long discours. Je laisse la parole à Saïd.
Bien. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Et ne vous plaignez pas du faible nombre ou du nombre important, hein, tout dépend avec quoi vous comparez. Je pense que nous sommes dans une phase sociale dans laquelle les esprits sont en train de s'ouvrir. Mais c'est long, parce qu'on vient de tellement loin. Je vous donnerai quelques faits, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, vous allez voir. Il y a plein de bonnes nouvelles. Simplement, elles ne se voient pas. Le temps historique est un temps qu'on voudrait toujours accélérer, mais qui... faut savoir regarder ce qui bouge et ce qui se transforme. Et c'est souvent dans les périodes où on a l'impression de reculer que les prises de conscience les plus fortes se font. Ça, c'est ma dose d'espoir que je voudrais donner. Je donnerai quelques faits sur cette dimension d'espoir. C'est mon cadeau pour fin de conférence. Je voudrais commencer par préciser de quel lieu je parle. Vous savez, on avait une vieille habitude dans le passé qui est oubliée, qui était que lorsqu'on invitait quelqu'un, eh bien, il commençait par dire qui il était. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, juste dire de quel lieu je parle. Je parle d'un triple lieu. Et je le précise à chacune de mes conférences parce que je trouve qu'il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui, et dans le monde de la recherche, mais aussi, ça va peut-être choquer certains, même dans le monde du militantisme, qui ne précise pas d'où ils parlent. Je parle d'un premier lieu qui est celui pour lequel certains m'invitent, qui est le lieu de l'université, le lieu de la recherche, pour un certain nombre de travaux que j'ai pu mener. Je parle d'un second lieu qui est le lieu de l'engagement militant. D'autres m'invitent, ce ne sont pas les mêmes pour ce second lieu. Parfois, c'est les mêmes, mais c'est souvent pas tout à fait les mêmes. Du lieu de l'engagement militant, parce que j'ai comme conception, là aussi, je voudrais citer quelqu'un qu'on ne cite plus beaucoup, qui est Gramsci, qui est ce militant italien de la gauche italienne qui, à l'époque du fascisme, a théorisé le rôle des intellectuels dans les périodes de régression. Lui, c'était le fascisme. Aujourd'hui, c'est la mondialisation et tout ce que ça entraîne, avec le retour d'idéologie qu'on croyait dépassée. Eh bien, Gramsci disait, on ne peut pas être un intellectuel et être indifférent à la souffrance du monde, indifférent à la déconstruction du monde, et que par conséquent, l'intellectuel ne peut pas se replier dans son bureau et ne pas se poser la question de son propre engagement, des propres tâches qu'il va mettre en œuvre pour pour agir sur cette souffrance qui existe dans le monde. Et je parle d'un troisième lieu qui est le lieu de l'immigration. Et pas de n'importe quelle immigration, de l'immigration postcoloniale, c'est-à-dire l'immigration qui vient des anciennes colonies. Je vous donnerai un certain nombre d'éléments là-dessus au fur et à mesure de la conférence, parce que je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de questions sont liées à l'aspect postcolonial de cette immigration, sont liées au fait que cette immigration qui vient des anciennes colonies. Autrement dit, le réflexe qui est de comparer aux immigrations du passé, portugaises, espagnoles, polonaises, ce réflexe-là est un mauvais réflexe, qui ne nous permet pas de comprendre un certain nombre de spécificités, qui ne nous permet pas de comprendre certaines formes d'oppression, et qui ne permet pas de comprendre certaines formes de consensus, justement celles qui bloquent la conscience, celles qui empêchent d'aller plus vite. Alors, je voulais commencer par ça, et la seconde chose que je voudrais dire en introduction, c'est méfiez-vous des intervenants qui vous disent qu'ils sont objectifs. Chaque fois que vous avez quelqu'un qui vient vous dire « je vais parler d'un lieu objectif », vous sortez votre revolver, c'est un menteur. C'est un menteur parce que, bien entendu, personne n'est né sur la planète Mars, et donc personne ne peut se considérer comme étant entièrement libéré de sa trajectoire, de ce qu'il a entendu de la famille, de sa classe sociale d'appartenance, des expériences vécues, et que celui qui prétendrait que l'usage d'outils scientifiques lui permet de se détacher entièrement vise tout simplement, sous prétexte de non-idéologie, à faire passer une idéologie précise. La crise, enfin le discours sur la fin des idéologies est en fait une idéologie bien précise. Moi, je viens d'une ville ouvrière qui s'appelle Roubaix. J'ai grandi à Roubaix, et j'ai grandi à Roubaix à une période où Roubaix était caractérisé par deux grandes caractéristiques. Premièrement, c'était une des principales villes dans lesquelles l'immigration algérienne avait été mobilisée et un des centres essentiels de la Fédération de France du FLN. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'était un espace dans lequel, dans les familles, ces immigrés qu'on présente comme analphabètes, comme inorganisés, parfois avec beaucoup de mépris, eh bien étaient des gens qui étaient hyper organisés, qui allaient à des réunions, qui distribuaient des tracts, qui cotisaient, etc. Alors tous ceux qui ont cru que ça commençait avec les soi-disant beurs pour la politisation, hein, d'un seul coup les jeunes auraient été mieux que les parents, les jeunes auraient appris de la politique que d'autres ne savaient pas faire, les Rachida Dati seraient supérieurs aux parents, etc. Bien non, l'histoire dément cela, nos parents, ces travailleurs immigrés analphabètes, avaient été en mesure d'organiser un des mouvements politiques contestataires les plus forts de ce pays. C'est une histoire qui est peu connue, c'est une mémoire qui est peu transmise, et je pense qu'on a intérêt à aller interviewer ces vieux militants qui sont en train de mourir, qui ont 70 ans, 75 ans, 80 ans maintenant, et qui ont toute une tranche de l'histoire de l'immigration, et une tranche d'histoire qui était liée à celle de la classe ouvrière. Liée par certaines actions, mais liée aussi dans l'opposition, parce que déjà à l'époque, il y avait des contradictions entre le mouvement ouvrier français et cette question de l'indépendance. Donc Roubaix, j'ai grandi dans ce Roubaix-là, et j'ai grandi dans un Roubaix dans lequel la culture ouvrière était une culture forte. Les milieux populaires étaient organisés, avec des espaces de socialisation, des organisations. J'ai l'habitude de raconter, toujours sous forme d'anecdotes, parce que les anecdotes permettent d'éclairer, que nous, notre semaine, elle était simple, quand on était enfant et quand on était encore plus quand on était adolescent. Le mardi, on allait à la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne. T'es pas du tout chrétien, mais on allait à la JOC, ça nous permettait de rencontrer des filles. Bon. Le mercredi, on allait au PC, Jeunesse Communiste. La même chose, on ne fait rien de forcément de communiste, hein, même si on n'était pas en désaccord avec ce qu'il disait, mais ça nous permettait d'avoir des fêtes, de rencontrer des gens, etc. Donc, autrement dit, un jeune qui grandissait dans une ville ouvrière dans les années 60-70 avait en une semaine de multiples espaces dans lesquels il entendait des discours politiques, il faisait la fête, il rencontrait des gens, etc. Quand on regarde le désert que peuvent signifier certains quartiers populaires aujourd'hui, on voit bien les dégâts que cela a pu faire. Alors vous comprendrez qu'ayant grandi avec ces deux racines-là, une racine dans laquelle, dans la famille, on me parlait de la décolonisation, et d'un autre côté, dans mon quartier, je voyais la culture ouvrière, la lutte sociale, faut pas se laisser faire, la dignité, etc. Eh bien, quand je suis arrivé à l'université, comme par hasard, hein, pour les gens, vous direz, c'est objectif, c'est le hasard, comme par hasard, j'ai fait mes travaux sur quoi? Sur les milieux populaires, sur l'immigration, sur ces questions-là. Je n'ai pas pensé à faire de recherche sur la culture des bananes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça ne m'a pas touché une seule fois. Comme par hasard, mes préoccupations étaient vers ça. Autrement dit, ceux qui vous disent qu'ils choisissent leur thème de recherche comme ça, c'est pas vrai, c'est déterminé, donc il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a qu'une démarche dans laquelle le chercheur ou le militant doit tenter de diminuer sa subjectivité et non pas le mythe d'une objectivité qui serait pure. Le discours sur l'objectivité est un discours qui empêche l'engagement, qui amène les personnes à dire... Tant que je ne suis pas entièrement objectif, tant que je n'ai pas rencontré des gens avec qui je suis entièrement d'accord à la virgule près, je ne peux pas m'engager. C'est très bien, donc je regarde le train passer, je vois les grèves s'effectuer, je vois les manifestations d'immigrés se faire, je dis, ah, je ne suis pas entièrement d'accord, il manque une virgule, et donc j'y vais pas. Bien entendu, on peut se poser la question, qui a intérêt à ce que nous en soyons là? Alors sur le thème d'aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup apprécié lorsque vous m'avez proposé le thème, parce que je pense que nous sommes... dans cette phase-là, aujourd'hui, qui est la tentative, ça ne s'est jamais arrêté, mais avec un retour en force, de revenir à une perception de l'étranger comme étant un être en dehors de l'humanité. Toute l'histoire des sociétés occidentales a été de percevoir l'étranger comme en dehors de l'humanité, et je pense que nous sommes dans une phase de retour à cela. Alors je voudrais d'abord commencer par cet aspect historique. Ça n'est pas une réalité nouvelle. Je vais peut-être choquer certains d'entre vous parce que ça fait partie des mythes de la gauche et de l'extrême gauche, mais ça a commencé dans ce qui est présenté dans nos ouvrages historiques, dans nos livres d'histoire, comme étant la source de la démocratie. La pensée des Lumières, l'intouchable pensée des Lumières. Vous savez, quand je parle de la pensée des Lumières avec des éléments critiques, alors là j'ai tous les fusils qui commencent là, y compris à gauche et à l'extrême gauche, on me dit, mais où tu veux en venir, tu veux remettre en cause tout, qu'est-ce qui va nous rester, etc. La pensée des Lumières. Qu'est-ce que c'est que cette pensée des Lumières? C'est un double mouvement contradictoire. C'est d'un côté, réellement, et c'est pour cela que moi je m'estime pas, j'estime pas être contre la pensée des Lumières quand j'interviens, c'est réellement l'invention de l'émancipation. C'est-à-dire que on a là des philosophes, des penseurs qui ont posé que l'avenir de l'humanité, c'était la rupture avec la détermination complète. Autrement dit, l'être humain peut choisir lui-même sa vie. Et donc il peut du coup décider d'avoir une société égalitaire, une société démocratique, etc. La pensée lumière va poser l'autonomie du sujet humain. Elle va poser le fait que le monde n'est pas quelque chose qui est absolu et demain, ce n'est pas forcément la même chose qu'hier. On a le droit de critiquer les pouvoirs établis. Dans ce sens-là, la pensée des Lumières est effectivement une contribution à l'invention de la pensée démocratique et de la pensée émancipatrice. Mais dans le même mouvement, les mêmes hommes, les mêmes penseurs qui inventent la démocratie, plus exactement la dynamique démocratique, parce que la démocratie, elle n'est pas terminée, il y a encore une histoire, il y aura d'autres auteurs qui l'approfondiront, d'autres êtres humains qui la compléteront, eh bien, dans le même temps où ça s'invente, on la réduit à l'homme blanc. Je dis bien l'homme blanc. On ne la réduit pas à la femme blanche. La femme blanche est éliminée. Le jeune blanc est éliminé. L'homme et la femme noire, alors là, on n'en parle même pas. L'homme maghrébin ou l'homme musulman, on n'en parle même pas. Les mêmes penseurs, lisez Voltaire, le fameux Voltaire qu'on nous apprend dans nos cours de philosophie en terminale, qui nous apprend la lutte contre l'intolérance, et effectivement Voltaire, je vibre quand je lis Voltaire dans la lutte contre l'intolérance, mais le même Voltaire nous dit les Noirs ont des cheveux crépus et Dieu n'a pas pu mettre une âme dans un être de cette couleur-là, le même Voltaire. Or ça, bien ça fait des décennies qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. Montesquieu, qui considère, un grand penseur démocratique, hein, Montesquieu qui considère que l'intelligence des êtres humains est liée au climat. Quand il fait trop froid, ça va pas. Quand il fait trop chaud, c'est des sauvages. Et quel est le pays dans lequel c'est tempéré? La France. Et donc, bien entendu, et Montesquieu le dit tel quel, Montesquieu le dit, le seul endroit où pouvait naître la démocratie, c'était la France. C'est cette pensée de... Alors, je pourrais en rajouter, hein, ceux qui ne sont pas convaincus, citez-moi un philosophe des Lumières, à part quelques-uns, il y en a quelques-uns, mais à part quelques-uns, eh bien, on a du sexisme, c'est-à-dire les femmes ne sont pas capables d'être l'égale de l'homme, elles ne sont pas capables de la pensée démocratique. Alors, pour les femmes, ça a été aussi caricatural, hein. Mesdames, vous ne pouviez pas accéder aux droits politiques pour une raison toute simple, vous ne saviez pas, vous avez un corps physique, biologique, dans lequel, quand vous faites l'amour, vous êtes... parcouru, alors là je cite des philosophes aussi, vous êtes parcouru de spasmes qui indiquent que vous n'êtes pas capable de prendre le recul nécessaire, rationnel, distancié pour penser la politique. On ne pouvait pas vous confier l'avenir de la cité quand même. Ensuite, on nous a dit que mesdames, vous n'étiez pas capable d'une indépendance. C'est-à-dire que vous donnez le droit de vote, c'était de donner le droit de vote au curé. Vous savez très bien, vous êtes tous à l'église et c'est le curé qui a 100, hein, les 100 femmes du village, et bien quand le curé dit faut voter à droite, les 100 votent à droite. Ça vous rappelle rien? Exactement ce qu'on dit sur les immigrés aujourd'hui. Alors, le droit de vote, ils vont voter comme le roi du Maroc va leur dire de voter. Le roi du Maroc va dire votez Sarkozy, ils vont tous voter Sarkozy. L'idée que notre cerveau ne nous permet pas, ce que les Lumières ont montré, une indépendance de jugement. On n'est pas comme les autres, nous on est grégaire, c'est un collectif. Et donc il n'y a pas d'individualité qui pourrait prendre une décision toute seule, comme les femmes n'avaient pas d'individualité, elles dépendaient de leur curé. Troisième argument qui a été avancé ensuite, quand les femmes se sont un peu battues, c'est-à-dire, non, on ne peut pas leur donner le droit de vote parce qu'elles vont voter comme leur mari. Ben, dans l'immigration, on entend exactement la même chose aujourd'hui. Ben, attendez, les femmes maghrébines, elles obéissent à leur mari, elles sont complètement serrées par leur mari, il y a toujours le bâton derrière, donc on ne peut pas... soit on les émancipe de force, soit on ne peut rien faire avec eux. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La pensée des Lumières, c'est au cœur même de la pensée démocratique que se niche cette dimension-là. Et après, il y a une logique et une histoire. Cette pensée des Lumières, c'est ce qui va donner naissance à la fameuse mission civilisatrice. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a cette pensée des Lumières que l'on s'est dit que, effectivement, on ne peut pas... on a à aller, c'est un devoir et une mission, bien entendu, ça cachait des intérêts économiques, c'est pour leur bien qu'on va les coloniser. Alors, j'insiste là-dessus tout simplement pour indiquer que ça fait près de 150 ans de vécu d'époque coloniale, et c'est près de 200 ans de vécu de cette pensée des Lumières contradictoires. Certains ont analysé la colonisation comme n'ayant des effets que sur les peuples colonisés. C'est vrai, la colonisation a des effets sur les peuples colonisés. Elle amène, par exemple, un certain nombre de personnes issues de l'immigration à avoir une mentalité de colonisé. C'est ceux qui disent toujours merci. Hein, ils sont là, ils ont des droits, ils disent merci. Et donc à ne pas revendiquer leurs droits. Ah, j'écoutais l'autre fois M. Sarkozy parler de ses ministres. M. Fillon, il a un nom et un prénom. Madame Amara et Madame Ramaya n'ont pas de nom et de prénom. C'est les Fadela et les Amara. Hein, c'est au pluriel que c'est dit. Les Noirs et les Arabes, c'est du pluriel. Mais ça, c'est intériorisé aussi par les personnes issues d'immigration. Donc ça a un effet sur les colonies. Mais qui a dit que ça n'avait qu'un effet sur les colonies? Ça a un effet sur la puissance colonisatrice. À force de voir pendant des décennies et des décennies des Arabes et des Noirs à une position dominée, on finit par considérer que c'est normal. On finit par considérer que c'est naturel. À force d'accepter l'inacceptable pour des gens qui n'ont pas la même couleur que moi, on finit par considérer que c'est compatible avec le fait d'être de gauche. Donc c'est pour leur bien. Ils ne sont pas à la même place que nous, mais c'est pour leur bien. Et donc le paternalisme, l'appel à la patience, oui, vous aurez un jour l'égalité, mais pas maintenant. Il faut attendre un petit peu. Attendez 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Tout ça, c'est des relents coloniaux. Tout ça, c'est bien cette mission civilisatrice qui est de dire, un jour vous serez des hommes, mais pour y arriver, il faut qu'on vous éduque. C'est un problème d'éducation. Il y a bien entendu des gens qui ont le savoir pour éduquer, et d'autres qui n'ont pas le savoir et qui doivent être éduqués. C'est la rencontre de ces effets sur les pays colonisés et les peuples colonisés, et de ces effets sur les peuples colonisateurs, ça fait système. Autrement dit, à chaque fois que vous acceptez d'être mis en situation de dépendance, ou à chaque fois que vous acceptez un système de ce type-là, vous contribuez à sa reproduction. Alors, autant pour dire que je pense effectivement que nous sommes dans une phase où l'immigration a tendance à être déshumanisée. Alors je voudrais le démontrer autour de trois grandes dimensions. La première, c'est de considérer ce qui se joue au niveau des sans-papiers. La seconde, c'est de considérer ce qui se joue au niveau de l'immigration régulière. Et la troisième, ce qui se joue au niveau des Français issus de l'immigration. Tant qu'on sera obligé d'utiliser le terme « issu de l'immigration », ça voudra dire que dans la réalité, eh bien, il y a des Français à plusieurs étages. Je sais que certains disent qu'il ne faut plus l'utiliser, moi je l'utiliserai tant qu'il y aura inégalité. Le jour où on ne l'utilisera plus, c'est que dans la réalité, il y aura égalité entre les personnes. Alors, d'abord au niveau des sans-papiers. Vous avez tous entendu comme moi l'annonce chiffrée de M. Hortefeux. Il faut être ferme sur la question des sans-papiers, pour bien intégrer ceux qui sont issus, et je peux vous assurer que là, il y a du travail, parce qu'il y a des jeunes Français issus de l'immigration, et même certains immigrés ayant une carte de résidence, qui peuvent, parce qu'ils sont trompés idéologiquement, être d'accord avec ça. Hein? On vient leur dire, mais écoutez, le jour où on arrivera à fermer les frontières vraiment, on pourra s'occuper de votre intégration. Donc en gros, votre intégration est bloquée par les sans-papiers qui arrivent. C'est une idéologie. C'est une idéologie qui est basée sur l'égoïsme. Hein. C'est ce que j'appelle le syndrome de fermer la porte derrière soi. On a même d'anciens sans-papiers qui étaient régularisés il y a 3 ans, qui maintenant disent, mais non, pas les nouveaux. Maintenant que je suis rentré, je ferme, je mets 3 tours, etc. Alors, vous avez tous entendu, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a des annonces chiffrées. Rien que ça, c'est un signe qui peut mener, c'est un indicateur qui peut mener à tous les abus. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on a des indications chiffrées en termes d'expulsion, on veut en expulser autant, eh bien ça veut dire que ordre est donné aux forces de police de rechercher à tout prix. Et ça, eh bien, que l'on ne soit pas sans papier, hein, qu'on soit immigré ou qu'on soit français, ça se paye toujours. Lorsqu'on laisse une partie de la population être l'objet de tous les abus, ça a toujours tendance à se généraliser. Alors, qu'est-ce que signifie cette annonce de M. Hortefeux? Il nous dit, de tête, je crois, 100 000 obligations de quitter le territoire français, je crois un peu plus, 100 000 obligations de quitter le territoire français et 25 000 expulsions réalisées. Et les journalistes n'ont pas réagi. Les commentateurs n'ont pas réagi. Plein de chercheurs qui sont indignés de ça n'ont pas montré l'enjeu de ce qu'il y avait derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au moins chaque année 75 000 personnes qui seront sans papier, mais qui ne seront pas expulsées. Autrement dit, ce que nous annonce M. Hortefeux, c'est l'organisation d'un segment du travail clandestin. C'est l'organisation du fait qu'il y aura des dizaines de milliers de personnes qui resteront sur ce territoire sans papier, esclaves des temps modernes. Autrement dit, le discours sur l'expulsion, c'est du bluff. Non pas que les expulsions, une expulsion c'est trop, non pas qu'il n'y aura pas de souffrance, mais pour la grande majorité des sans-papiers, ils resteront. l'objectif des expulsions chiffrées, même si ça est toujours un drame dans une vie humaine, c'est d'amener les sans-papiers à se cacher. C'est de les amener à retourner à la clandestinité. Le grand acquis des luttes des sans-papiers ces dernières années, ça a été l'abandon du mot clandestin. On les appelait les clandestins. Ils se sont appelés les sans-papiers en sortant de l'ombre, en s'organisant, en créant des comités, en manifestant, etc. et en obtenant des régularisations par leur lutte. Là, l'objectif, c'est de diffuser la peur. Ça ne, ils ne peuvent pas expulser 125 000, ça coûterait... le budget de l'État n'y suffirait pas. Donc, tôt ou tard, l'essentiel des sans-papiers seront régularisés. Mais là, il s'agit d'autre chose, il s'agit d'organiser un volant. Quand on en régularisera 15 000, il y en aura 15 000 nouveaux. C'est-à-dire de mettre sur le marché du travail une main-d'œuvre disponible pour certains secteurs. Et on les connaît, ces secteurs. Dans leur calcul de rentabilité, certains secteurs économiques ont inclus le coût du travail des sans-papiers, un coût inférieur aux autres. Le bâtiment, le textile, la restauration. Et dans lequel on a l'impression d'avoir un gouvernement pour flatter l'électorat du Front National qui dit qu'il va expulser, alors qu'en réalité, il organise une rotation des sans-papiers sur ce territoire. Alors, l'État ne peut pas dire qu'il est indifférent à cela. L'État est complice de ce système de reproduction. Et il est complice en particulier dans ses grands travaux. On a de multiples preuves. Il y a un laboratoire des amis chercheurs à l'URMIS à Paris qui travaille régulièrement pour débusquer ce type de contrats qui ont mis en évidence déjà un certain nombre de scandales. Alors ça se passe comment? Alors je dis l'État, mais c'est les villes aussi. Hein. Donc soyez vigilants sur Mulhouse, il se peut qu'il y ait ce type de marché qui fonctionne. Ça fonctionne comment? Une municipalité ou un État lance un appel d'offres. Voilà, je veux construire la Grande Arche de la Défense. Je prends un exemple concret, puisque ça a été prouvé pour la Grande Arche de la Défense. Mais le Stade de France, enfin, tous les grands travaux. Je lance un appel d'offres. Mais j'offre à ceux qui vont candidater, ceux qui vont dire je suis prêt à le faire, j'offre un prix inférieur à celui du marché. C'est-à-dire j'offre un prix qui ne permet pas de payer les salaires tels que le droit du travail oblige à les payer. L'employeur qui accepte, c'est à fait comme s'il ne savait rien. Donc voilà, oui, moi je suis prêt à vous construire pour 1000 euros votre Stade de France. Tout le monde sait que ça va, si on respectait le droit du travail, ça doit coûter 4000 euros. L'État ne sait rien. En réalité, tout le monde sait qu'il va falloir employer des sans-papiers pour le faire. Le métro parisien, l'Arche de la Défense, le Grand Stade de France, les infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver, etc. Tout ça, ça a été démontré d'une complicité collective, au plus haut sommet de l'État jusqu'aux autorités locales, pour... utiliser des sans-papiers, c'est-à-dire des gens qui ont aucun droit. Alors, tout cela, ça a aussi une dimension, c'est que ça acclimate, ça habitue les habitants d'un même quartier, d'une même ville, à considérer que ces sans-papiers, ils ne sont pas tout à fait comme nous. Ils ne sont pas tout à fait comme nous, ils n'ont pas tout à fait les mêmes besoins que nous. Et c'est là la dimension déshumanisante. À partir du moment où je regarde l'autre comme n'ayant pas les mêmes besoins que moi, il n'a pas besoin de loisirs comme moi, il n'a pas besoin de logement comme moi, il n'a pas besoin de scolarité comme moi. Mais oui, mais eux, de toute façon, ils sont sans papiers, ce qu'ils veulent, c'est juste envoyer un peu d'argent au pays. Et donc, on finit par s'acclimater, à s'habituer avec ce qui est d'une dimension inacceptable. C'est le vieux retour à l'image classique de l'immigration. Je vous rappelle ce que nous disait le grand sociologue Abdelmalek Sayad, comme par hasard, c'est celui qui est le moins enseigné aujourd'hui, alors qu'il reste une référence pour moi sur les questions d'immigration. Mais vous pouvez faire des études de sociologie, hein, bac plus 8, et jamais avoir entendu une seule fois Abdelmalek Sayad. Hein, aujourd'hui, ça dépend des facs, ça dépend des enseignants. Heureusement, il y en a un certain nombre qui l'incluent dans leur programme, mais il y a plein d'autres endroits où vous ne l'apprenez pas du tout. Abdelmalek Sayad nous dit, l'image historique, le modèle de l'immigration dans le passé, c'est une immigration perçue comme sans odeur et sans saveur. Une immigration réduite à sa force de travail. C'est-à-dire étant considérée comme n'ayant pas de besoin de logement, pas de besoin de loisirs, pas de besoin de faire venir sa femme et ses enfants, pas de besoin, etc. Comme par hasard aujourd'hui, on commence à nous habituer à l'idée qu'on pourrait faire venir des immigrés sans qu'ils aient le droit de faire venir leur famille. Donc c'est revenir à cette image de force de travail brute. Or, nous savons que ça se fait au prix d'une violence énorme. Abdelmalek Sayad nous propose la loi suivante sur l'immigration en disant « Toute l'histoire de l'humanité nous montre que toute migration a vocation au peuplement. » C'est-à-dire que toute migration, même quand les premiers concernés pensent qu'ils vont rentrer au pays, sont destinés à rester. Bien sûr que les premières années eh bien, l'immigré dit, je vais accumuler de l'argent et je vais rentrer. Mais au moment où il veut rentrer, eh bien, son identité s'est déjà transformée. Et il se trouve en porte-à-faux avec le pays d'origine. Et quand il va là-bas, il se sent déjà étranger. On peut même dire, nous dit Abdelmalek Sayad, que à partir du moment où l'idée de partir, là, au village, là-bas, là, eh bien, j'ai déjà commencé à me transformer. Parce que je ne suis pas encore parti, je suis encore dans le village. Mais si j'ai 50 francs, je ne vais pas les mettre dans les mêmes choses que quelqu'un qui ne va pas partir. Et donc mes choix budgétaires, mes projections, mes rêves, mes... tout ça est déjà dans un ailleurs. Autrement dit, comme toute migration a vocation au peuplement, à chaque fois qu'on met en place des lois qui vont empêcher ce peuplement, eh bien nous sommes dans de la violence pure. Et effectivement, aujourd'hui, on nous habitue à l'idée qu'on pourrait avoir un travailleur turc qui fasse jamais venir sa famille. Prenons un peu de recul, c'est-à-dire qu'on nous habitue à l'idée d'entraver le droit de vivre en famille. Si on le faisait pour des Français, ça provoquerait, c'est pas normal, et tout le monde a le droit de vivre en famille. Mais là, comme on a mis à part ces sans-papiers et ces immigrés en général, eh bien on peut considérer que c'est possible. Alors, la seconde dimension qui me semble importante d'avoir en tête, c'est au niveau des dimensions idéologiques. Qu'est-ce qui se joue donc sur les questions de l'immigration en matière idéologique? Depuis maintenant près de deux décennies, se développe dans nos médias, dans le discours de nos hommes politiques, dans les explications qui sont avancées, se développe ce que j'appelle dans mes écrits des explications culturalistes, le culturalisme. Qu'est-ce que c'est que le culturalisme? Bien, si c'est trop complexe dans le débat, vous me dites que c'était à côté de la plaque, hein, n'hésitez pas. Hein. Le culturalisme, c'est la forme, c'est une des formes de ce qu'on appelle l'essentialisme, mais ramené à l'immigration. Alors, je vais d'abord commencer par l'essentialisme. Excusez-moi, j'ai décidé de faire un petit cours aujourd'hui. Hein. L'essentialisme, c'est lorsque vous recherchez l'explication d'un phénomène ou d'un comportement dans l'essence de la personne. Par exemple, je vais vous donner les exemples les plus courants, les exemples concrets. L'instinct maternel. C'est beau, hein, l'instinct maternel. Qu'est-ce que ça arrange les hommes? Il y aurait une essence féminine qui aurait un instinct maternel. Et ce qui permet à l'homme de dire quoi? C'est dans son essence, donc moi j'ai pas à m'occuper des gosses. C'est-à-dire que l'essentialisme, ça permet toujours de justifier une domination. Toujours. Lorsque vous appliquez ce raisonnement, alors par exemple, lorsque vous parlez des jeunes, le problème des jeunes, c'est comme si les jeunes habitaient sur Mars, et ils n'habitaient pas avec les adultes. Non, les jeunes habitent avec des adultes. Donc il n'y a pas de problème des jeunes, il y a problème d'une société dans le rapport à sa jeunesse. Mais quand vous dites les jeunes, c'est comme si les jeunes d'aujourd'hui, ils auraient eu un jeune nouveau, il y aurait une essence nouvelle des jeunes qui les mettrait à part. C'est bien entendu le lien entre jeunes et société qui pose problème, et non pas les jeunes en tant que tels. Bien l'essentialisme, ça va être de chercher dans la violence des jeunes. Entendez ça? La violence des jeunes. Là, il y aurait un truc qui serait propre aux jeunes. Les adultes ne seraient pas violents, mais les jeunes seraient violents. Ben, ça, c'est l'essentialisme. Ramené à l'immigration, ça donne le culturalisme. C'est-à-dire l'explication par la culture de ce qui ne va pas. Vous savez, c'est de la faute de l'islam. L'islam n'est pas compatible avec la République, vous l'avez entendu, ça. Hein, ils nous l'ont dit. Donc le problème aujourd'hui, ça n'est pas l'inégalité sociale qui touche les populations issues de l'immigration. Ça va être, c'est leur culture, c'est leur religion. Rappelons-nous la dernière, novembre 2005, je ne sais pas si Mulhouse a été touché, mais novembre 2005, quand même. Autant de quartiers populaires. Quasiment toute la France populaire a été touchée. Hein, toute la France populaire avec un certain degré de regroupement de la population de milieu populaire. 21 jours. Il faut remonter à mai 68 pour voir un mouvement de ce type-là. Hein, pour voir autant d'espaces touchés. On a eu quoi comme explication? La polygamie. Vous vous rappelez? Ça n'est pas l'inégalité sociale qui peut expliquer que ça explose, c'est la polygamie. Vous savez, c'est les Noirs, là. Ils sont venus avec leurs 50 femmes, etc. Le nombre de familles polygames en France, c'est entre 11 et 15 000. L'évaluation la plus petite, c'est 8 000. L'évaluation la plus grande, c'est 15 000. Donc, ça, je dis entre 11 et 15 000, je prends une moyenne. 15 000 familles polygames qui peuvent faire exploser toute la France, c'est extraordinaire quand même. Ben voilà comment, pour ne pas expliquer socialement la révolte des quartiers populaires, pour ne pas parler d'inégalité sociale, pour ne pas parler du désespoir d'un certain nombre de jeunes dans ces quartiers, eh bien, on va dévier, nous habituer à regarder dans leur culture. Regarder plus dans leur culture. Vous imaginez ce que ça signifie? L'habitude de regarder l'autre comme étant uniquement une culture à part de moi, différente, ça me permet de ne pas parler des inégalités sociales. On a eu ensuite l'intégrisme. Ils sont balèzes les intégristes. Alors que, on a eu là aussi pour la première fois, des quelques imams qui étaient venus dire aux jeunes, faut pas faire ça, ils se sont fait caillasser. Je t'en dis, on vous respecte, mais dans votre mosquée, pourquoi vous venez nous embêter nous, la police en sait, ils ont tué nos deux amis, vous venez nous embêter, etc. Donc, et là, on a dit l'intégrisme. On a dit la culture maghrébine qui laisse sortir les enfants le soir. Je regrette, mais moi, quand j'ai la question des enfants dans la rue le soir, moi, quand j'avais 10-12 ans, on sortait pas le soir. Mais pourquoi ? Ben parce que la société était plus stable qu'aujourd'hui. C'est les mêmes familles maghrébines pourtant. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur l'affaire du foulard. Je vous donne des exemples comme ça pour vous indiquer combien le français moyen peut entendre de discours culturalistes qui l'habituent à ne plus penser social, économique, politique, mais à penser islam, culture, Maghreb, Afrique, etc. Moi j'ai des demandes, alors je rigole à chaque fois, hein. Parce que comme ils m'ont vu à la télé, etc. Monsieur Bouhama, pouvez-vous m'expliquer pourquoi les Maghrébins, ils se droguent? Pour exactement les mêmes raisons que tous les jeunes, pourquoi il y aurait une explication maghrébine? Et derrière cela, il doit y avoir une cause culturelle à ça. Alors certains vont même très loin, ils disent, oui, au Maroc, j'ai vu des gens qui fumaient le kiff. Oui, mais sauf qu'au Maroc, c'est le Maroc. Ici, les jeunes ont grandi en France, ils sont nés en France, ça n'a rien à voir. Et donc, on nous habitue à rechercher des causes culturelles au processus. Par exemple, on ne pouvait pas imaginer au moment de l'affaire du foulard, ces jeunes filles qui ont porté le foulard, on ne pouvait pas imaginer, pourtant elle le disait, que c'était elle qui l'avait décidé, j'ai écrit tout un ouvrage là-dessus, en réaction à la manière dont on parlait de l'islam dans cette société, et en réaction aux discriminations qu'elle vivait, eh bien on ne pouvait pas imaginer que porter le foulard était une manière de s'exprimer, de sortir de l'invisibilité justement, et de dire, moi, sans complexe, je suis musulmane ou je suis non musulmane mais issu de l'islam et je le revendique et je n'ai pas à le cacher. Eh bien non, on ne l'a pas expliqué comme ça. Il fallait aller rechercher du côté de la culture. Dans leur culture, les hommes les obligent à porter le foulard. C'est ce qu'on a entendu. Et il faut donc les émanciper malgré elles. On ne leur demandait pas leur point de vue, il fallait l'imposer. Alors, je pourrais en prendre plein d'exemples, on en trouvera plein dans le débat tout à l'heure, mais cette habitude d'expliquer les choses uniquement par la culture, c'est une manière d'enfermer la personne, de ne pas la considérer comme quelqu'un qui, comme tout le monde, a besoin d'un logement, a besoin d'un avenir pour ses enfants, a besoin de vivre, a besoin de tout ça. Et donc on va ramener l'ensemble des phénomènes à la dimension culturelle. Et on a eu un excellent exemple avec ça, qui montre bien dans quelle phase historique nous sommes, qui est le discours de Dakar. Le discours de Dakar, M. Sarkozy, on dit ce que l'on veut. C'est la photocopie du discours colonial Troisième République. Vous savez, la pensée des Lumières considère, donc cette pensée fondatrice de la cité française et de sa démocratie, la pensée des Lumières considérait que son grand apport, donc les philosophes disaient notre grand apport, c'est qu'avant nous, on pensait que tout était écrit par Dieu, et donc nous n'avions qu'à dérouler le projet de Dieu. Donc l'être humain, sa fonction, c'était de connaître le projet de Dieu et de rester conforme avec, etc. Et la pensée de Lumière est venue dire, attention, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, peu importe, par contre, vous pouvez écrire votre propre projet. Et qu'est-ce qu'a dit Sarkozy à Dakar ? Il a dit, les Occidentaux sont développés parce qu'ils ont le projet. Et vous, vous êtes sous-développés, non pas parce qu'il y a des échanges inégaux, non pas parce qu'il y a de l'impérialisme, non pas parce qu'il y a du vol, etc., mais tout simplement parce que vous êtes dans la répétition. Autrement dit, il y a des peuples qui ont inventé le projet et d'autres qui n'ont pas inventé le projet. Au moment de la Troisième République, la mission civilisatrice, c'était d'aller ouvrir au projet des peuples qui étaient dans la répétition. Donc on a bien une photocopie de cela. C'est une explication culturaliste du sous-développement. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dakar, les peuples africains, ils ne sont pas là où ils en sont à cause des échanges inégaux, à cause qu'effectivement, les profits qui sont retirés de l'exploitation des matières premières sont de plus en plus accaparés par les pays occidentaux. C'est pas ça, donc c'est pas l'économique et le politique qui expliquent la situation de sous-développement, c'est une question culturelle, ils n'ont pas dans leur tête le projet. Et donc, tant qu'ils ne seront pas sortis de la répétition, ils ne s'en sortiront pas. La dernière affaire de l'Arche de Zoé indique effectivement qu'on y sommes dans cette période-là, sauf que là, on a un chef d'État, Et là, on a des ploucs, là, des pieds nickelés, là, qui ont fait leur truc. Mais ça indique bien que nous sommes bien dans quelque chose qui est transversal à la société. Et je pense que c'est une des difficultés du mouvement militant et des milieux populaires aujourd'hui, c'est qu'ils ont été touchés par cette idéologie coloniale. Et que si nous n'arrivons pas à décoloniser nos esprits, eh bien, les milieux populaires resteront divisés. Alors, quel est l'intérêt de voir revenir ce culturalisme aujourd'hui? Eh bien d'abord, de créer une frontière qui n'est pas une frontière sociale. De créer une frontière entre un nous et un eux. Mais le nous et le eux, c'est pas travailleur, couche moyenne, patron, ça va être le nous et le eux, ça va être ceux qui ont le projet et ceux qui n'ont pas le projet. Ceux qui ont les lumières, ceux qui n'ont pas les lumières. Ceux qui sont d'une culture qui permet de se comprendre entre nous et les autres qui viennent d'ailleurs. Bien entendu, la frontière n'est pas totale, vous pouvez avoir un visa, enfin, Della Amara en a eu un, de Rachida Dati en a eu un, hein, ce que j'appelle dans mes écrits les bourgeois, ils en ont. C'est-à-dire que si vous êtes bien sage, si vous êtes bien intégré et bien soumis, on vous fera l'honneur de vous considérer parmi nous. Mais vous aurez alors le devoir d'être dans la déloyauté avec votre milieu d'origine. Vous aurez à nous dire, mes parents m'ont vraiment fait souffrir. J'ai vraiment souffert dans ma culture. Je vais mieux depuis que j'ai abandonné l'islam. Je vais mieux depuis que j'ai quitté ma famille. Je vais mieux depuis que j'ai craché sur mes frères. C'est-à-dire qu'il y a une injonction de déloyauté pour pouvoir faire partie du nous. Ça, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça divise en permanence les milieux populaires. C'est-à-dire que ceux qui ont intérêt à s'unir se divisent et ceux qui ont intérêt à être divisés s'unissent. Voilà ce que ça veut dire. Alors, cette logique-là, elle n'a pas de limite si on ne l'arrête pas, s'il n'y a pas de conscientisation. Et je pense qu'on a un gouvernement qui va tellement loin que des conscientisations, à mon avis, vont se faire. Parce qu'on a vraiment là affaire à quelqu'un qui croit en ces conneries. Avant, on avait des gouvernements qui n'y croyaient pas, c'est-à-dire qu'ils savaient que c'était pour voler. Mais là, on a un Sarkozy qui croit. Quand il va à Dakar et qu'il le dit, il pense vraiment. Chirac, quand il allait à Dakar, il ne le croyait pas. Il disait, ça me permet de justifier le vol de l'économie sénégalaise, donc je vais pas le dire comme ça, etc. Là, on a quelqu'un qui croit en ça, c'est-à-dire que, et ça peut mener très loin. Soit ça réagit, soit ça peut mener très loin. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique de fascisation. C'est quoi la logique de fascisation? Ça ne veut pas dire que c'est fascisme. Hein. Le jour où ce sera fascisme, je ne serai pas là. On sera dans les maquis ensemble, mais on ne sera pas là. Hein. C'est quoi une logique de fascisation? C'est de considérer que pour que ça, c'est de construire un contexte idéologique qui me permette de voir mon voisin se faire tuer sans me sentir concerné. C'est-à-dire, c'est animaliser l'autre. Vous savez, tuer un homme, c'est pas simple. En réalité, certains le font à l'aise, hein, mais le français moyen, c'est pas simple de lui prendre un fusil. Hein, s'il est pas trop tordu dans sa tête, c'est pas simple de faire ça. Tuer un animal, c'est déjà un peu plus difficile, un peu plus facile. Tuer un insecte, c'est très simple. Autrement dit, au plus on présentera l'étranger comme différent de nous, au plus on s'habituera à ce que les forces de l'ordre, à ce qu'autour de nous, on les traite de manière inhumaine. Et il s'agit aujourd'hui de nous habituer à ne plus regarder dans l'étranger un être humain comme moi, un travailleur comme moi, un habitant comme moi, un père de famille comme moi. Et quand vous regardez ce qui se diffuse dans les médias, c'est bien, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Et ça, ben ça mène effectivement à tout. Hein. C'est-à-dire qu'après, une fois que la logique est enclenchée, s'il n'y a pas de réaction, eh bien ça peut mener à tout. Eh bien le culturalisme, c'est justement ce qui nous habitue à ne pas penser l'autre comme nous. À ne pas penser l'autre comme nous. Alors je voudrais donner un exemple, un autre objet de mes travaux. Moi je suis hanté par les dominations, donc je travaille sur toutes les questions de domination. Un des aspects de mes travaux, ça a été de travailler, j'ai fait un centre de recherche sur les questions de la prostitution. Et qu'est-ce qui fait que des personnes en arrivent à se prostituer, mais qu'est-ce qui fait aussi que des hommes en arrivent à devenir clients? Et figurez-vous que lorsque vous interrogez, vous savez, ces touristes qui font du tourisme sexuel pour aller consommer des enfants, tourisme sexuel enfantin, lorsque vous interviewez, on n'a pas affaire à des pédophiles. On n'a pas affaire à des pédophiles. C'est ça qui est plus grave, pour vous montrer à quoi ils peuvent nous mener. On a affaire à des êtres normaux, mais qui se disent, donc qui eux ne feraient pas ça ici avec des enfants, hein, mais qui se disent, dans leur culture, c'est pas la même chose. Donc en Afrique, il n'y a pas d'enfance. Il n'y a pas d'enfance. Eux, chez eux, ben, ils apprennent la sexualité tout de suite, ou bien ils sont des grands naïfs tout le temps, etc. Donc, on enlève la barrière de l'enfance en disant c'est une autre culture, et du coup, je peux avoir un acte sexuel avec un enfant sans que ça choque ma morale. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire avec les sans-papiers. Ils sont en train de nous habituer à considérer, oui, mais eux, quand même, ils ont exagéré, mais quand même, on leur a dit de partir, etc. Et donc, de nous habituer à ne pas réagir comme si c'était pour nous. Mais le résultat, c'est les tests ADN. On n'est pas très très loin du tri ethnique de 1945, c'est pas il y a 300 ans. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une réaction unanime de la société. On a eu des soubresauts dans la gauche, on a eu des intellectuels qui ont bougé, mais on ne peut pas dire que ça a développé des manifestations monstres, etc. On a là un gouvernement qui va recourir au tri ethnique, et ça ne soulève pas le souvenir de ce qui s'est passé. Le plus Pétain, c'est quoi avec les juifs? C'est le tri ethnique, hein. Ils n'avaient pas l'ADN à l'époque. Donc ils regardaient les nez. Donc maintenant, c'est plus... Si on ne va pas regarder les nez, on va regarder l'ADN. Ça se voit pas, c'est sous forme de test. Mais ça n'a pas provoqué de soulèvement d'opinion. Ce qui veut bien dire que cette logique de les séparer de nous, de les montrer comme différents de nous, eh bien, ça s'est déjà bien implanté. C'est déjà bien implanté. Sinon, tout le monde pourrait se dire, maintenant, mais si on commence par les immigrés, demain, ça va être moi pour savoir... Et donc là, on a cette logique-là qui est déjà bien implantée. Voilà en ce qui concerne, donc, du côté des sans-papiers, l'organisation d'un marché du travail à deux étages, du côté de l'immigration, le culturalisme pour expliquer les comportements, eh bien, il reste après la troisième catégorie. On pourrait dire, bon, mais ça, c'est l'immigration, hein, tout État a le droit de fermer ses frontières, etc. Je dirais après... le degré de solidité de cette argumentation, mais il reste la troisième partie, qui sont les Français issus de l'immigration. Eux, ils sont Français, quand même. Ça y est, ils sont sauvés. D'accord, les autres, ils ont des difficultés, eux, ils sont sauvés. Alors, je voudrais donner le résultat de la dernière étude sur les discriminations en fonction de l'origine, discrimination raciste. Dernière étude, faite par un organisme gauchiste, le BIT, Bureau International du Travail. Hein. Complètement l'extrême gauche, mais ça c'est d'humour. Hein. 8 employeurs sur 10 en France disent tenir compte de l'origine au moment de l'emploi. Nous ne sommes pas dans quelque chose de secondaire. Nous sommes dans une réalité massive de la société française. Et on ne peut pas comprendre les révoltes de novembre 2005, puisque dans ces quartiers populaires, il y avait beaucoup de jeunes issus de l'immigration, si on ne prend pas en compte cette expérience. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes Français non issus de l'immigration, qui ont des difficultés d'emploi, mais quand il se compare, quand Mohamed se compare à son copain Jean-Pierre, il s'aperçoit que Jean-Pierre, il a galéré 5 ans, mais lui, 10 ans après, il y est encore. Et donc, c'est la dimension comparative. C'est pas que l'un est privilégié et l'autre, non. C'est que dans la difficulté, il y a des difficultés plus grandes que d'autres. Eh bien, face à ça, on a quoi? Donc, on a une réalité massive de discrimination. Outre le marché du travail organisé pour les sans-papiers, on a un second marché du travail qui s'organise, dans lequel certains, lorsqu'ils sont issus de l'immigration, même s'ils sont français, sont obligés d'accepter les emplois aidés, les intérims, les postes avec 3 employeurs ou 3 endroits, etc. Vous regardez dans les hôtels aujourd'hui, c'est extraordinaire, hein. Alors qu'on trouvait que les femmes issues de l'immigration maghrébine et d'Afrique noire, il allait falloir les intégrer, les employeurs n'ont pas de problème. Hein, pour les femmes de ménage dans les hôtels, ils les ont intégrées. Quand elles portent le foulard, il n'y a pas de problème, elles peuvent porter le foulard. Et qu'elles soient musulmanes, il n'y a pas de problème. Mais par contre, elles commencent à 6h du matin à l'autre bout de la ville, à 9h elles sont de l'autre côté, et à 2h elles sont de l'autre côté. Il y a l'organisation d'un second marché du travail pour ces jeunes Français issus de l'immigration, parce que leur expérience les contraint à bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, d'accepter des postes déqualifiés. Et souvent d'ailleurs, dans ces postes-là, on leur demande de faire autre chose que ce qui est prévu pour le poste, parce qu'on sait qu'ils sont surqualifiés. Quant aux emplois jeunes et toutes les techniques qu'il y a eu depuis des années, eh bien, quand on regarde qui y vont, on s'aperçoit bien que c'est cette partie qui n'a pas d'autre choix que d'y aller. Eh bien, face à ça, quelle est l'analyse actuelle? Vous l'avez tous entendu, quand même, c'est quelqu'un issu de l'immigration qui l'a dit, on est le ministre, certains, je dis ça parce que dans les quartiers populaires, des fois j'entends, ah quand même, Sarkozy, il a quand même mis une Fadela et une Ramaya, donc quand même, ça va, c'est par rapport à la gauche, etc. Oui, attendez pas de moi que je vous fasse des discours sur la gauche, Je pense qu'ils n'ont pas arrêté de se moquer de nous pendant des années. Mais attention aux illusions que parce qu'on a un Mohamed, ça va mieux. Que nous dit Madame Amara? Plan anti-glandouille. Plan anti-glandouille. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'on est dans de l'explication culturaliste. Qu'est-ce que c'est que le plan anti-glandouille? C'est de dire, de faire un constat juste, les jeunes dans les quartiers glandouillent. Bon, mais ça, c'est une cause ou c'est une conséquence? Si je dis ça sans préciser si c'est une cause ou une conséquence, parce que si c'est une cause, ben c'est du culturalisme. On a déjà connu ça, hein. C'est la même lignée. Qu'est-ce que nous disait Aziz Begag? Toujours un autre arabe de service dans le gouvernement précédent. Quand on veut, on peut. Mais il allait plus loin. C'est ce qu'il a appelé la théorie des dérouilleurs. La théorie des dérouilleurs. Alors, beaucoup de gens d'ailleurs, je le dis à l'avenir pour que tout le monde développe son esprit critique. Hein. Plein de gens étaient tellement contents que quand même quelqu'un issu de l'immigration arrive à être sociologue, arrive, etc., que du coup, on n'a pas été lire Aziz Begag ou on l'a lu avec un œil moins critique. Avant qu'il devienne ministre, Aziz Begag posait cette explication, je vous le dis parce que d'autres le disent avec d'autres mots. La difficulté pour les jeunes issus de l'immigration, nous disait-il, c'est que quand l'un réussit, il y a tous ses copains qui lui en veulent. Il dérouille. Il dérouille. C'est pour ça qu'il les appelait les dérouilleurs. Et donc, il proposait d'accompagner ces jeunes pour les aider à s'en sortir, à sortir de leur milieu. C'était pas comment l'ensemble du milieu social va s'en sortir. Donc qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins d'échecs scolaires pour tous les enfants de l'immigration? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins des... C'était pas ça, c'était aider une minorité à s'en sortir. Et il l'a théorisé dans son fameux discours, humoristique pour moi, hein. J'attendais un humoriste issu de l'immigration qui nous fasse des sketchs, mais on l'a pas eu, qui nous disait faut traverser le périph. Hein? Comme s'il y avait des gens qui par plaisir ne traversaient pas le périph. Il y avait des gens qui disaient, non, moi je ne veux pas traverser le périph. C'est pas comme ça. Sans nous poser la question, qu'est-ce que ce périph représente? Qui c'est qui l'a mis là? Et le périph, ça peut être une frontière. Vous savez, il y a des endroits, il y a certains quartiers, quand vous allez, bah, vous vous dites, est-ce que je suis chez moi, hein? Si en centre-ville, vous avez des caméras partout, des regards, quand vous entrez dans le supermarché, etc. Soit vous dites, allez, je m'en fous, je me ferai contrôler, je continue. Soit vous dites, je vais rester dans le quartier. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'enfermement dans le quartier d'un certain nombre de jeunes, ça n'est pas qu'un phénomène, encore une fois, culturaliste. C'est pas simplement les personnes, c'est aussi le résultat des interactions avec le centre-ville. C'est le résultat des interactions avec les contrôles de papier. C'est le résultat de comment on est perçu lorsqu'on va dans tel ou tel endroit. Bien entendu qu'à force d'être rejeté, vous finissez par dire « j'y vais plus ». Combien de bistrots qui refusent des personnes issues de l'immigration mériterait qu'on y aille encore plus. Mais les gens disent, oh, ils m'emmerdent, je ne vais pas me casser la tête avec ça. Et donc c'est aussi le résultat de tout ça. Donc lorsqu'on pose cette idée, traverser le périph, apprenez le chinois, vous l'avez entendu ça, il faut qu'ils apprennent le chinois. C'est extraordinaire, mais on a des jeunes qui ne veulent pas aller travailler en Chine, ils veulent vivre ici. Ils veulent vivre dans leur pays, ils sont des Français, ils veulent vivre dans leur pays. On leur dit, il faut apprendre le chinois. Et nous dit, il faut que les Maghrébins, les jeunes Français d'origine maghrébine doivent apprendre le chinois. Mais pourquoi plus eux que d'autres? Et donc on a là des explications culturalistes une nouvelle fois. À chaque fois que vous avez une description des quartiers populaires qui ne précise pas, lorsqu'il parle de quelque chose, si c'est une cause ou une conséquence, ben, y a de grandes chances que ça soit une dimension culturaliste. Parce que ce qu'il y a derrière, ben, c'est que ces jeunes en sont là parce qu'ils glandent. Ça n'est pas « ils glandent » parce qu'ils ont eu tel et tel aspect d'inégalité ou de difficulté, c'est ils en sont là parce qu'ils glandent. En gros, c'est une dimension volontariste. Ça mène à quoi? Ça mène à l'idée, d'ailleurs, ça existe, hein, ça mène à l'idée d'une deuxième chance. Il faut leur donner une deuxième chance. Il y a d'ailleurs aujourd'hui des... il y a aujourd'hui des soi-disant écoles la deuxième chance. Et à chaque fois que j'ai fait une conférence dans des quartiers populaires, donc là où il y avait des jeunes, hein, j'ai la chance moi d'avoir dans certaines grandes villes un public qui sont des jeunes de quartier, eh bien les jeunes n'ont jamais pu retenir l'expression « école la deuxième chance ». Ils disent « l'école la dernière chance ». Et ils ont bien compris. Parce que derrière cette idéologie, il y a « on te tend la main, mais attention !» Alors qu'en sachant que les inégalités continuent. Si ça ne marche pas, c'est fini. C'est fini. Autrement dit, il n'y a que les meilleurs qui réussiront. Autrement dit, on ne cherche pas à régler la question de la majorité, Il s'agit de créer une élite qui va permettre de justifier les inégalités vécues par tous les autres. Exactement comme à l'époque coloniale, il y avait une élite indigène, des Bacharas, des Caïds qu'on mettait en avant. On avait tous un instituteur dans le moindre village, enfin dans la monde, on avait l'instituteur qui venait dire « Merci la France, grâce à vous j'ai fait des études ». Et bien là on aura un petit Mohamed né dans, je ne sais pas, les quartiers populaires de Mulhouse, qui viendra vous dire « Merci le maire, merci la France, j'ai pu réussir ». Et donc tous ceux qui n'ont pas réussi, eh bien c'est de leur faute. C'est qu'ils n'ont pas voulu. Si ceux qui veulent peuvent, ça veut dire ceux qui n'ont pas réussi, n'ont pas voulu. Et c'est ça l'idéologie qu'il y a derrière le plan anti-glandouille. Quant au contenu du plan anti-glandouille, Madame Amara a parlé trop vite, puisqu'elle a dit elle-même, pas un jeune qui aurait pas de stage. C'est les stages que veulent les jeunes, il paraît. C'est extraordinaire, ça fait 30 ans que... Donc on voit bien qu'on est sur une dynamique qui consiste à remplacer la question de l'égalité par une autre question, qui est la question de l'égalité des chances. Je m'arrache les cheveux quand je vois des gens qui se pensent de gauche reprendre l'expression égalité des chances. D'abord, l'expression égalité des chances, elle est du maréchal Pétain. C'est une dimension historique que peu de gens connaissent. Elle est du maréchal Pétain, et pour le maréchal Pétain, elle visait à remplacer l'idéologie du Front Populaire, 1936, les congés payés, etc., qui mettait en avant la question de l'égalité de traitement, même s'ils n'ont pas été jusqu'au bout, mais c'était la question de l'égalité de traitement. Et l'égalité des chances, c'était une manière de dire, mais, puisque je vous rappelle que Pétain, les partisans de Pétain sont venus au pouvoir avec le slogan plutôt Hitler que le Front Populaire. La peur du mouvement social les amenait à préférer Hitler. Et peut-être qu'il fallait déconstruire tous les acquis de 36. Et l'expression égalité des chances vise à remplacer l'égalité de traitement. Comme me disait un des jeunes dans un débat, c'était, il me disait, oui, égalité des chances, moi tout ce que j'ai compris, c'est tant pis pour ceux qui n'ont pas de chance. Et je crois qu'il avait bien compris, je crois qu'il faut vraiment s'intéresser à l'humour populaire, parce qu'il y a, dedans un savoir, un vrai savoir, des réflexes qui permettent de bien saisir ce qu'il y a derrière. Et donc, derrière cela, il y a le fameux mythe de la discrimination positive, ce qui est appelé discrimination positive. Alors, on est derrière cette question-là sur une ambiguïté dans le discours qu'il faut clarifier. C'est pour cela que, dans beaucoup de cas, des gens vous disent « Ah oui, mais je suis quand même pour ». Donc il faut clarifier. Mais tout simplement parce que derrière la même expression, il y a deux choses contradictoires qui sont véhiculées, selon les personnes qui parlent. Vous savez, il y a certains mots qui sont magiques. C'est-à-dire qu'on l'emploie, on a l'impression de dire la même chose, mais chacun a sa propre définition. Il y a une première approche de certains, en particulier au niveau dans les quartiers populaires. Je le dis, si vous animez des bains dans les quartiers populaires, vous avez beaucoup de jeunes qui vous disent « Non, non, nous on veut la discrimination positive ». Mais ce n'est pas la même chose que ce que dit Sarkozy. Et c'est ça qu'à mon avis, il faut avoir en tête. Sinon, vous allez vous opposer à ces jeunes sans saisir qu'en réalité, derrière, ils mettent autre chose. La première logique qui a été appelée discrimination positive ou affirmative action aux États-Unis ou en Angleterre, etc., c'est l'idée que l'égalité, ça n'est pas donné à tous la même chose. Marx disait, pour être égal, le droit devrait être inégal. Autrement dit, la vraie égalité, c'est donner plus à ceux qui ont moins. Et quand, dans les quartiers populaires, on vous dit, mais nous, on est pour la discrimination positive, ce qu'ils vous disent, c'est ça. C'est ne traitez pas en égaux des inégaux. À chaque fois que vous traitez en égaux des inégaux, le résultat, c'est que vous avez encore approfondi l'inégalité. Regardez, début de la crise économique, les années 70, vous regardez 20 ans après, on n'a pas eu de mesures compensatoires, qu'est-ce qui s'est passé ? L'inégalité homme-femme a augmenté. L'inégalité jeune-adulte a augmenté. L'inégalité personne issue d'immigration, non issue d'immigration a augmenté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on traite en égaux des inégaux, le résultat, c'est que les inégaux sont encore plus inégaux. Autrement dit, une première acception que là, je ne peux être que d'accord, même si je n'utilise plus le terme discrimination positive, mais je peux vous dire dans les quartiers, c'est ça qu'ils ont en tête. Pour moi, c'est simplement l'égalité. Ça suffit, ce terme devrait suffire en l'expliquant. Eh bien, c'est de dire l'État, les pouvoirs publics, les municipalités, les décideurs ont comme responsabilité de prendre en compte que certains partent de plus loin, ont une égalité au départ plus grande que d'autres. Et que ça doit être s'intégrer dans les politiques publiques. La seconde acception, elle est tout autre. Elle est directement, je le disais tout à l'heure, issue de l'époque coloniale, c'est celle de M. Sarkozy. C'est considérer la discrimination positive comme l'émergence d'une élite minoritaire qui justifie, qui légitime l'exclusion de tous les autres. Exactement. Comme dit Serge Halimi, qui a trouvé, à mon avis, une très bonne définition de la discrimination positive, en disant la discrimination positive, c'est lorsque une partie de la population, par exemple les femmes, ou les immigrés, ou les populations d'immigration, qui est en inégalité plus que d'autres, vient dire « Nous voulons du pain comme tout le monde », on leur répond « Tout le monde n'aura pas de pain, mais certains auront des brioches ». Enfin, c'est ça la discrimination positive. Hein, donc tous les jeunes sous l'immigration n'auront pas de pain, ils veulent du pain comme tout le monde, pas plus, mais certains d'entre vous auront des brioches. Là, on en a trois au gouvernement qui ont des brioches, et on nous présente ça comme étant un progrès de l'égalité. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est à quoi ça sert tout ça. Pourquoi on a ce discours sur celui qui veut, il peut, une minorité, parce qu'elle a travaillé, a réussi, etc. Il s'agit d'habituer les autres à la culpabilité. Si, ne vous plaignez pas, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de question d'idéologie coloniale. Pourquoi vous nous embêtez? Ça, c'est du communautarisme tout ça, puisque ceux qui veulent, ils peuvent. Arrêtez avec votre place, ce qu'ils appellent la victimisation. Vous victimisez. Il faut arrêter avec ça, puisqu'on en a quelques-uns qui ont réussi. C'est la preuve qu'on peut réussir. Et donc derrière cela, il y a une accoutumance à la soumission qui est faite. En fait, c'est une pression à la résignation. Une pression à la non-revendication. C'est d'amener la personne à se considérer comme responsable de ce qui lui arrive. Et donc, quand on s'estime coupable de ce qui nous arrive, on n'entre pas en lutte. Alors, si on a tout ça en tête, eh bien, on peut se poser la question de, ça nous mène à quoi? Bien, d'ailleurs, je voudrais commencer pour clore cette conférence et qu'on puisse échanger, commencer par dire que l'immigration fait partie de manière essentielle des milieux populaires. On évalue aujourd'hui, c'est pas moi qui le fais, c'est Michel Verret, donc il y a un des rares sociologues qui, même en période où c'était à la mode dans les facs de dire il n'y a plus de classe ouvrière, il n'y a plus de travailleurs, là il y a la moyennisation de la société, vous savez, toute cette période-là, il n'y a plus de classe sociale, etc. Michel Verret, c'est un vieux monsieur maintenant, a toujours tenu en disant non, moi je veux comptabiliser, je regarde les chiffres, il y a combien de travailleurs dans ce pays, etc. Et il a toujours eu une attention qui est je vais comptabiliser le nombre de travailleurs issus de l'immigration. Il évalue à près de 30% la partie des milieux populaires issus de l'immigration. C'est-à-dire que si vous cumulez les sans-papiers, alors ça suppose effectivement qu'on prenne tous les travailleurs, les sans-papiers, les immigrés réguliers, une carte de 10 ans, de 5 ans et d'un an, les Français issus de l'immigration, c'est près de 30%. Autrement dit, aucun changement social dans ce pays important n'est possible tant que les organisations ouvrières de gauche, etc., ne prennent pas acte que les milieux populaires aujourd'hui, ils sont blancs, noirs, arabes, musulmans, etc. Et que tant qu'il y aura une approche de ces milieux-là comme extériorité, les travailleurs immigrés, quand on dit les travailleurs immigrés, c'est à part, c'est pas... Ce sont les milieux populaires d'aujourd'hui. Et on voit bien aujourd'hui, une des difficultés de la gauche, c'est sa difficulté à considérer que ce sont effectivement les milieux populaires. À chaque fois qu'on utilise le terme banlieue, par exemple, c'est n'importe quoi. Quand on utilise le terme banlieue, c'est pour ne pas utiliser le terme quartier populaire. C'est parce qu'on a du mal à considérer que ces endroits dans lesquels il y a beaucoup d'Arabes et de Noirs, c'est le peuple. C'est le peuple d'aujourd'hui, tel qu'il est. Et donc on va dire la banlieue. Mais Neuilly, c'est la banlieue. Il y a des banlieues pauvres, des banlieues riches, comme par hasard. Donc c'est les quartiers populaires. Une banlieue pauvre, c'est quoi? C'est un quartier populaire. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller à l'extérieur de la ville ou pour avoir une milieu populaire. Hein. Dans certaines villes, c'est l'inverse. C'est au centre-ville qu'il y a les taudis, etc. Ça dépend des villes, etc. Et donc, il y a un vrai blocage idéologique. Et ça, on voit bien l'héritage colonial. Comment regarder l'immigré? Dans l'immigré, je ne vois pas le travailleur. Je vois d'abord l'immigré. Je vois d'abord la culture différente. Il y a une vraie difficulté à les considérer comme faisant partie du peuple de ce pays. Or, il n'y a pas de transformation possible. Tant que les dominants de ce pays savent que 70% vont, donc du monde du travail, hein, vont ne pas considérer les 30%, comment vous allez réussir un mouvement social important? Ça bloquera. Par exemple, vous avez comment organiser une grève dans le bâtiment s'il n'y a pas cette conscience-là? C'est pas possible. Dans le textile? Dans la restauration? Dans d'autres secteurs, c'est possible, parce que justement, ce sont des secteurs qui ont été peu touchés par une main-d'œuvre d'origine étrangère. Par exemple, chez les cheminots, cette question-là ne se pose pas, parce que les personnes issues de l'immigration n'y ont pas eu accès. Donc ça ne va pas diviser chez les cheminots, mais dans d'autres secteurs, ça divisera. Donc on a un enjeu essentiel pour l'émancipation sociale, qui ne sera pas possible tant qu'il n'y aura pas de dépassement de cela. Or, pour dépasser cela, il faut dépasser un certain nombre d'images qui ont été inculquées, qui sont des images de type colonial. Je donnerai deux, trois exemples pour rigoler avant de terminer. La second enjeu de toutes ces idéologies, c'est ce que j'appelle la production d'une conscience éclatée. C'est-à-dire de considérer que nous ne pouvons pas former un « nous » social et que nous sommes obligés d'être dans des « nous » séparés. Parce que quand vous regardez, ça commence à faire beaucoup. Hein. Le sans-papier, de son côté, il considère qu'il est coupé des autres. Moi, ma préoccupation, c'est mes papiers. Le sans-papier qui vient d'être régularisé, lui, il se dit « Oh là là, j'ai de la chance, je viens d'avoir mes papiers. Ouf, je ne vais pas commencer à faire de la politique, etc. Je vais m'occuper d'avoir un travail, un logement, et puis on verra après. » L'immigré qui est là depuis longtemps se dit « Oh là là, mes gosses, qu'est-ce qu'ils vont devenir je suis venu ici pour qu'ils aillent mieux, et je vois mon gamin, il est toxicomane, là, c'est devenu... » par pudeur, on ne parle pas de ça, toxicomanie, maladie mentale, etc. Mais tout ce que j'ai dit, c'est une qualité, ça se paye, hein. C'est pas, quand je dis la toxicomanie, c'est pas parce qu'il y a une culture qui porte la toxicomanie, c'est parce qu'il y a des violences sociales qui poussent à ça. La maladie mentale, ça fait 15 ans que j'essaye d'obtenir un budget pour qu'on me laisse faire une enquête nationale sur la maladie mentale en posant deux hypothèses. Nous allons trouver plus chez les fous plus d'ouvriers que de non-ouvriers et plus de personnes issues de l'immigration que des personnes non issues de l'immigration. Pas parce qu'on a un gène de folie, mais parce que la violence sociale d'inégalité va produire ces phénomènes de rupture psychique, etc. Et personne ne veut qu'on aille voir ces chiffres-là, hein. Ça n'intéresse personne. Parce que ce serait une dénonciation de la société immédiate. Donc ça, ils veulent pas. Donc les immigrés qui sont à la fin de leur vie, au bout d'un certain temps, se disent « J'ai immigré pour que ma famille aille mieux, et je me retrouve avec mes gosses Bac plus 5 qui ne trouvent pas de boulot, avec un qui est à l'hôpital psychiatrique. » Je me demande pourquoi j'ai immigré. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, au moment où il devrait être dans une... Regardez tout ce que j'ai fait, il se dit « Est-ce que j'ai eu raison d'immigrer ?» Vous imaginez ce que ça veut dire comme violence sociale ? Et je pense qu'on ne s'occupe pas assez aujourd'hui des anciens et qu'il y a une vraie préoccupation à avoir parce que la violence sociale vécue jusqu'à la fin de leur vie est importante. Quatrièmement, les jeunes issus de l'immigration qui sont, eux, encore pires que leurs parents. Et c'est encore pire que leurs parents. Vous savez, les parents, quand ils vivaient un acte de racisme, ils étaient psychologiquement protégés. Parce que dans leur tête, ils se disaient « Ok, mais je ne suis pas chez moi. C'est bon. » Ça veut dire supporte, patiente, t'es pas chez toi, voilà. Et donc, cette protection-là, se barre, patiente, tu retourneras un jour, permettez d'avoir une résistance à cette violence de l'insulte, à cette violence du rejet, etc. Mais cette protection, les jeunes français issus d'immigration ne l'ont pas. Eux, ils sont nés français, ils sont socialisés français, ils ont toujours été ici. C'est-à-dire que l'impact psychologique et destructeur des discriminations est beaucoup plus fort pour les enfants que pour les parents. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi ça se révolte maintenant. Les parents n'ont pas pensé brûler des voitures. C'est pas parce qu'il y avait moins de discrimination. C'est pas parce qu'ils vivaient moins de racisme. Ils en vivaient tout autant. Simplement, il y avait cette protection psychologique qui est devenue invivable pour ces nouvelles générations. Donc, on continue la chaîne. Vous voyez tout, comment le libéralisme a réussi à cloisonner. On continue. Après, vous avez les Français en CDI. Qui, eux, vont se dire... Moi, j'ai encore un CDI, je bouge pas, si je peux le garder, etc. Puis après, vous avez les Français qui ont un emploi, mais qui sont dans des emplois précaires, et puis après, vous avez les exclus. Vous voyez comment on a éparpillé, et on a produit donc une conscience éclatée. C'est sans doute de la responsabilité collective que de montrer le lien entre tout ça. Mais ça, malheureusement, on est obligé de le dire, on n'a pas une gauche qui nous aide à faire ça aujourd'hui. Hein. L'état de conscience de la gauche ne permet pas de produire ça. Je terminerai, avant de vous donner deux anecdotes pour vous montrer l'ampleur des dégâts, et puis mais aussi des pistes qui me semblent importantes, mais je terminerai en résumant tout ce que je vous ai dit en une formule que j'utilise assez régulièrement. Derrière tout cela, il y a une logique qui est très simple. Diviser ceux qui ont intérêt à s'unir et unir ceux qui ont intérêt à être divisés. Enfin, ceux qui devraient être divisés. Voilà. C'est-à-dire qu'un ouvrier français qui a tout intérêt à se défendre pour que son voisin Mohamed puisse avoir les mêmes droits que lui va considérer qu'il est plus proche d'un patron français que de son voisin Mohamed. Voilà à quoi mène cette logique. En créant l'extériorité de l'immigré, on produit cette absence de rationalité parce que bien entendu, l'ouvrier français finira par payer, hein, parce que la logique s'appliquera. Alors, je voudrais terminer sur une ou deux anecdotes que j'ai vécu et qui me semble montrer l'ampleur du chemin qui nous reste à parcourir. La première, c'est quelque chose que j'ai vécu dans une très grande association antiraciste, une des plus vieilles, je ne vous dirai pas laquelle, mais une des plus vieilles, qui date de 45, implantée dans toute la France, etc., qui me demandait, M. Bouhamas, vous pouvez venir clore notre congrès annuel. Et je vais donc je dis, ben oui, c'est, pour moi c'était une reconnaissance que cette association me demande de faire ça, et je vais donc dans ce congrès, et je clôt leur congrès par une conférence, ovation, plus de 2000 personnes, ovation, etc. Et on passe au débat. Il y a une vieille dame qui lève la main, en disant, moi, je vais poser une question. On lui donne le micro, tout de suite, elle était vraiment, je n'ai pas de question, je vais vous embrasser, M. Bouhamas. Et donc, elle avance et elle vient me faire la bise. Et après, elle prend le micro, elle dit, je vais vous expliquer pourquoi je suis ému et pourquoi je voulais embrasser M. Bouhamas. Depuis que j'ai 13 ans, mon père, qui était au Parti communiste français, m'a emmené dans les foyers de travailleurs immigrés pour faire des cours d'alphabétisation. Maintenant, j'ai 84 ans. Depuis 13 ans, je n'ai pas arrêté des combats antiracistes, etc. Donc, j'étais là, je suis amoureux de cette vieille dame, c'est extraordinaire, etc. Et elle termine en disant, voir un arabe qui parle aussi bien français, je peux mourir tranquille. Voilà, envie de l'embrasser et de foutre une baffe à la fois. J'avais les deux, l'embrasser, la baffe en même temps, je voulais faire les deux à la fois. On voit bien comment ça a imprégné les mentalités collectives. Comment il y a un imaginaire colonial qui a perduré de la même façon qu'un imaginaire machiste est revivifié aujourd'hui à la période de la crise. Pour que les hommes et les femmes ne voient pas la communauté de leur intérêt, on a un imaginaire colonial qui a imprégné les milieux populaires. S'il n'est pas combattu par les organisations de gauche, s'il n'y a pas une autre éducation populaire qui est faite, eh bien, on aura ce type de réflexe. Là, ça va, c'est pas grave. Mais quand même, on était sur une réaction qui posait problème. Voilà ce que je voulais vous dire avant de passer au débat.
Les bonnes nouvelles, oui, vous avez promis. Voilà. Pour terminer, les amis sur la table.
Non, les bonnes nouvelles, c'est tout simplement que on a pour la première fois depuis des années des demandes. Alors c'est vrai que tu m'as présenté comme étant un initiateur des indigènes de la République. Ce mouvement a été beaucoup critiqué, etc. Et ce n'est pas un mouvement qui est destiné à devenir un mouvement de masse, ce n'était pas son objectif, c'était de poser des débats, et en particulier le débat sur l'héritage colonial. Vous avez tous suivi dans la presse comment on a été insulté, hein, communautariste, repli communautaire, etc. Eh bien, pour la première fois, et ce n'est pas découplé de ce qui se joue dans notre société, pour la première fois, on a des demandes qui viennent d'entreprises. Et qui sont des demandes sur « Venez nous expliquer c'est quoi cet héritage colonial ?» J'étais, je le disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, j'étais il y a 10 jours là avec des cheminots, dans lequel ce débat-là était posé, on en discutait. C'était inimaginable il y a encore 2 ou 3 ans. Il a fallu la révolte de novembre 2005, il a fallu le scandale des indigènes de la République, il a fallu tout ça pour que des gens, alors c'est une minorité, mais... Moi, je fais toujours attention à ce qui est nouveau. Hein. Une petite minorité comme ça m'intéresse beaucoup. Si on m'avait dit qu'un jour, les cheminots allaient me demander de venir parler avec eux de la question de l'héritage colonial, je vous aurais dit, oh là là, c'est dans 50 ans, c'est dans 100 ans. Autrement dit, sans doute que notre principal allié, c'est Sarkozy. Il est en train de pousser tellement loin le bouchon, le nombre de gens qui se sont réveillés avec le discours de Dakar. Moi, j'ai plein de gens qui me disaient, tu exagères, Saïd, et qui m'ont appelé après le discours de Dakar pour me dire, non, t'exagères pas, c'est pas que ça, hein. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui pousse le bouchon tellement loin qu'il va obliger un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas regarder la réalité à la regarder en face. Sur la question de l'islamophobie, on a maintenant, y compris des gens qui disent « Oui, j'étais la semaine dernière dans faire une conférence pour un séminaire de l'Association nationale des professeurs de philosophie. » Sur quoi ? Sur l'affaire du foulard. C'était inimaginable il y a quelques années. Simplement, ils s'aperçoivent de quoi ? Ben, ils s'aperçoivent qu'ils ont bien été manipulés au moment de l'affaire du foulard. Mais ils s'en aperçoivent maintenant que Sarkozy pousse plus loin le bouchon. Et donc c'est au moment... Et donc la bonne nouvelle, c'est ça que je voulais vous dire. La bonne nouvelle, c'est vive Sarkozy.
Vous